deze kiezen op dezelfde. Un livre inspiré. La série d'études que nous commençons aujourd'hui traite du livre inspiré. Et cette affirmation ne dit pas en elle-même quel livre nous allons prendre en considération. Parce que tous les livres, quels qu'ils soient, sont inspirés. Il n'existe aucun livre qui ne soit pas inspiré. Car affirmer une telle chose dit au fond que son existence est due à un accident ou à un hasard. Or, les livres qui naissent, ils ne naissent ni par accident, ni par hasard. Ils sont le résultat de l'inspiration de quelqu'un, par des personnes, des objets, des conditions particulières, des idées ou des émotions. Ce que vous lisez sur l'écran est suffisant pour décrire l'inspiration de quel livre nous allons examiner dans nos études. En toute vérité, il faut dire et admettre que ce livre est le plus grand des livres qui existent sur Terre. Le livre tous les livres. Oui, nous parlons de la Bible, le livre sur lequel est fondée la foi de millions d'êtres humains. Avez-vous jamais pensé à ce qui arriverait si cette fondation disparaissait? Avez-vous jamais considéré la terrible condition dans laquelle le monde serait vite jeté si cette assise s'écroulait? Délivrez-nous d'une telle pensée, direz-vous. Ce n'est pas si facile que cela. Nous devons voir les faits en face. La Bible a été soit produite par un homme, soit par un être suprême appelé Dieu. Si elle a été produite par l'homme, alors nous, qui croyons en elle, sommes les plus misérables des hommes. D'autre part, si c'est bien le livre de Dieu, nous sommes bénis parce que les hommes réalisent qu'il contient la pensée de Dieu, l'état de l'homme, la manière d'être sauvé, la destination des pécheurs et le bonheur des croyants. De nombreuses choses sont en jeu. Notre bonheur dans cette vie ici-bas, notre destination dans l'au-delà et même l'au-delà lui-même. Puisque tant de choses sont dans la balance, nous devrions avoir un profond intérêt pour ce qui doit être le fondement de notre foi, c'est-à-dire la Bible. Nous allons diviser notre étude en quatre parties distinctes. Le sujet de notre première leçon est comment l'inspiration nous concerne. Durant cette leçon, nous apprendrons ce qu'est l'inspiration, ce qu'elle représente, comment la Bible a été inspirée, et nous effleurerons le sujet de l'importance que présente l'inspiration de la Bible. En quelques mots, nous apprendrons pourquoi l'inspiration de la Bible nous concerne directement. La seconde leçon de notre étude traitera des preuves internes d'inspiration. Dans cette leçon, nous commencerons à prouver que la Bible est bien la parole inspirée de Dieu. Ensuite, nous discuterons de l'archéologie et l'inspiration. Cette leçon traitera de certaines des plus réelles, des plus récentes découvertes faites par les archéologues. Ce qui nous aidera à mieux comprendre et à mieux prouver l'inspiration de la Bible. Enfin, la dernière partie traitera des anciens faits scientifiques et l'inspiration. En d'autres mots, les faits scientifiques modernes connus et pratiqués avant les temps modernes et la Bible. Et cela nous aidera à essayer de nous convaincre que la Bible est bien le livre de Dieu. Nous sommes maintenant prêts à envisager la première partie de notre étude qui est comment l'inspiration nous concerne. Il y a, comme vous le voyez, quatre étapes dans notre plan d'étude. Qu'est-ce que l'inspiration? Théorie d'inspiration. Comment la Bible a été inspirée? L'importance de l'inspiration. Passons dès maintenant à l'étude de notre premier point qui est qu'est-ce que l'inspiration. Le mot inspiration signifie littéralement souffler dedans, comme quand on insuffle de l'air dans nos poumons. Nous comprendrons mieux cette définition au cours de notre étude. Le dictionnaire Larousse nous donne de l'inspiration la définition suivante. C'est l'état où se trouve l'âme lorsqu'elle est directement sous l'influence d'une puissance surnaturelle. Notons l'expression influence surnaturelle. Cela représente la contribution de Dieu dans une œuvre. L'homme, pour sa part, est placé dans un état spécial qui le qualifie pour communiquer la vérité divine. Cela représente sans nul doute la définition exacte de l'inspiration. Maintenant, nous serions en droit de nous poser la question, Dieu a-t-il réellement écrit la Bible? Pensons-y un petit moment. Nous croyons que la Bible est le livre de Dieu. Nous croyons qu'il en est l'auteur. Mais l'a-t-il réellement écrit? Dieu a-t-il écrit la Bible de ses propres mains pour ensuite la donner aux hommes? Est-ce comme cela que nous avons reçu la Bible? Non, bien sûr, la réponse saute aux yeux. Personne n'est assez sot que pour prendre une telle position. Alors, qui a écrit la Bible? Nous pouvons être certains que quelqu'un l'a fait. Elle est à notre possession, aujourd'hui. Et nous croyons que c'est le livre de Dieu, et pourtant nous ne croyons pas que Dieu l'a écrit. Alors, qui l'a fait? L'affaire est vraiment très simple. Il n'y a que deux possibilités. Ou c'est Dieu, ou c'est l'homme. Puisque Dieu n'a pas écrit la Bible, et il ne reste qu'une seule alternative, c'est l'homme. Gardons encore la définition de Larousse. Il dit que l'inspiration est l'influence d'une puissance surnaturelle. Cette puissance ou influence est exercée par Dieu. L'influence, c'est pratiquer un contrôle sur les actions de quelqu'un d'autre. Donc Dieu, qui est cette puissance surnaturelle, exerce son contrôle sur l'homme. Cette influence permet à l'homme de recevoir la vérité divine et de la communiquer. L'inspiration est donc le procédé que Dieu a employé pour donner sa volonté aux hommes sans risque d'erreur. C'est comme cela que Dieu exerçait son contrôle ou sa puissance sur l'homme. L'être humain n'était par conséquent pas libre d'agir de lui-même, mais il était en quelque sorte forcé d'agir, contraint d'agir par cette influence naturelle. Sous l'influence de Dieu, l'homme a fait deux choses, recevoir les vérités divines et les communiquer aux autres. On peut donc affirmer que la révélation de Dieu à l'homme devait être exempte de toute erreur. Nous avons donc fait la première étape dans notre étude. Nous sommes prêts à faire la seconde. Et nous allons voir que les différentes théories d'inspiration sont bien ce que nous pensions. Au cours des temps, les hommes ont avancé nombre d'idées et de théories sur le principe de comment la Bible avait été inspirée. Voyons certaines de ces théories sur l'inspiration. Et comme nous allons le voir, elles sont assez variées. Ces théories sont très nombreuses. Cependant, nous passerons en revue que les principales d'entre elles, c'est-à-dire la théorie de l'inspiration verbale, de l'idée et la théorie naturelle. Ceux qui soutiennent la théorie verbale affirment que Dieu, par le Saint-Esprit, a mis les mots dans la bouche de ceux qui parlaient et a guidé la plume même des écrivains de manière que chaque idée ou chaque pensée soit exactement comme il la voulait. En d'autres termes, que les écrivains et ceux qui parlaient étaient en fait que de simples instruments passifs. Peut-être que l'inspiration dite du mot pour mot serait une meilleure appellation. Il est réconfortant de savoir que les plus grands savants bibliques, les prédicateurs de l'Évangile et les vrais pécheurs d'hommes de tous les temps ont considéré la Bible comme étant infaillible et comme étant la parole de Dieu verbalement inspirée. La théorie de la pensée ou de l'idée veut que Dieu, par le Saint-Esprit, ait simplement donné sa pensée à l'homme tout en le laissant libre de garnir cette pensée à l'aide de ses propres mots et de sa propre manière. Cette théorie laissait une porte grande ouverte à toutes sortes de légères erreurs, puisque l'auteur serait resté libre quant au choix ou à la sélection des mots qui étoufferaient les pensées et les idées données par Dieu. Enfin, il existe des hommes qui professent la théorie dite naturelle, qui veut que les écrivains de la Bible n'aient été inspirés que d'une manière naturelle, c'est-à-dire plus ou moins comme
sont de cette manière réduits au niveau des productions littéraires, avec toutes les erreurs que comporte l'inspiration humaine, influencée par le paysage, le milieu ambiant, des personnages fictifs ou réels, ou par des impressions du moment. En réalité, ce qui avance une telle hypothèse, croit que la Bible n'est pas la parole infaillible de Dieu, mais seulement un bon livre dû à l'inspiration humaine. Il élève l'esprit malgré les erreurs qu'il contient, comme d'ailleurs toute production humaine. Maintenant que nous avons vu les différentes théories d'inspiration, nous avons besoin de connaître laquelle de ces théories est la bonne. Voyons donc ensemble comment la Bible a été inspirée. En 2 Pierre chapitre 1 et verset 21, nous lisons « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Par ce passage, nous voyons qu'il est évident que la Bible n'a pas été écrite par des hommes poussés par leur propre volonté qui auraient utilisé leurs propres sources d'informations. Mais ce passage biblique nous montre bien la manière selon laquelle cela s'est réellement passé. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce verset revendique l'inspiration divine et verbale pour ce que contient la Bible. Notons en particulier que ce verset inclut cet Ancien Testament que les incroyants et les modernistes attaquent avec tant de fougue. Les écrivains de l'Ancien Testament écrivirent des centaines de fois des phrases telles que « Moïse a écrivit toutes les paroles de l'Éternel, la parole du Seigneur vint à Moïse et à Aaron disant « Ou voici ce que dit l'Éternel. » Lisons ensemble Exode chapitre 24, versets 3 et 4. Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Les écrits de Moïse sont plus souvent attaqués que tout autre. Ces détracteurs disent qu'ils ne rapportent ni ce qui est exact, ni ce qui est scientifiquement vrai, ni juste du point de vue historique. Ces gens au cœur incroyant et rebelle critiquent les 5 premiers livres de la Bible et prétendent qu'ils ne sont pas parfaitement inspirés, que ce ne sont là que des légendes, et que tout cela contient des survivances de pensées de religions primitives. Nous ne sommes pas sans source d'information en ce qui concerne la méthode d'inspiration des livres de Moïse. Les passages que nous venons de lire dans ce livre de l'Exode nous disent comment Moïse a vraiment écrit les livres qui lui sont attribués. Continuons notre lecture en Exode chapitre 24. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons. Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ses paroles. On ne pouvait pas mieux exprimer le fait que Moïse a dit au peuple toutes les paroles de Dieu. Et ce peuple était d'accord pour suivre toutes les paroles que l'Éternel avait dites et que Moïse avait bien écrit toutes les paroles de Dieu. Ainsi, nous voyons que le Saint-Esprit avait donné sa révélation à Moïse d'une manière verbale ou par l'inspiration de la méthode du mot pour mot. En Ésaïe chapitre 51 et verset 16, nous lisons « Je mets mes paroles dans ta bouche. » Dieu dit donc à Ésaïe « Je mets mes paroles dans ta bouche. » Les mots sont les mots de Dieu, et cela n'est pas de l'inspiration verbale, alors qu'est-ce que c'est? Dieu a également dicté ses propres mots à Jérémie. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda. Le reste du chapitre nous donne les détails même d'une dictée mot à mot et la manière dont elle fut écrite. C'est donc un autre exemple d'inspiration verbale. Ézéchiel lui aussi fut appelé par Dieu pour devenir un prophète. Dieu lui dit, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. En Ézéchiel 3, 27, l'Éternel dit, mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu le dises. Ainsi parle le Seigneur. En Actes 2, 4, l'Écrivain dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Luc, l'auteur présumé du livre des Actes, vient juste de décrire la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Il montre le résultat de cette effusion en disant, ils se mirent à parler selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Notez que ce ne furent pas les pensées ou les idées qui leur furent données par Dieu, mais les mots mêmes. Par conséquent, les apôtres parlèrent et écrivirent en étant guidés par l'inspiration du mot pour mot. David lui aussi exprimait les mots que lui inspirait le Saint-Esprit, comme le dit très bien un passage qui dit, « Enfin, il fallait que s'accomplît ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David. » Nous lisons maintenant en 1 Corinthiens chapitre 2 et versets 12 et 13, « Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. » Comme nous pouvons le voir, Paul affirme ici que Dieu, par le Saint-Esprit, avait librement fait connaître certaines choses aux apôtres. Il ajoute ensuite que ces choses ont été exprimées, mais pas avec des discours ou avec des mots qu'enseigne la sagesse humaine, non. Ceci dément, dans des termes aussi vigoureux que possible, la possibilité d'une inspiration par pensée et soutient fermement la théorie de l'inspiration verbale. Nous avons donc parcouru les trois premières étapes de notre plan d'étude, c'est-à-dire qu'est-ce que l'inspiration, théorie d'inspiration, et comment la Bible a été inspirée. Nous allons maintenant considérer quelle est l'importance de l'inspiration. C'est vraiment faire un pas énorme dans notre étude que de voir cela. Si nous n'arrivons pas à comprendre l'importance capitale que revêt l'inspiration, nous ne serons jamais à même d'apprécier véritablement cette série d'études. Quelqu'un a exprimé un jour cette règle. Inspiration plus révélation égale la Bible. En d'autres mots, les deux choses ajoutées l'une à l'autre, c'est-à-dire l'inspiration et la révélation, donnent la Bible. L'auteur de cette affirmation a probablement été oublié depuis longtemps. Mais ce qu'il a soutenu tient toujours. Et il décrit bien ce qu'il nous a légué. Cela décrit parfaitement comment nous est parvenue la Bible, et plus spécialement la part importante que l'inspiration a jouée. Cependant, nous devons comprendre ce qui est entendu par là. Voyons cela d'un peu plus près. Et maintenant, bien sûr que l'inspiration est quelque chose. Elle est importante. Nous avons appris que la première partie de cette leçon était consacrée à l'inspiration, qui est l'état où se trouve l'âme lorsqu'elle est directement sous l'influence d'une puissance surnaturelle. Par ce procédé, les écrivains, étant influencés par Dieu, ont écrit mot pour mot ce que Dieu leur a dicté. Nous savons donc d'une manière définitive ce qu'est l'inspiration. Mais qu'est-ce que la révélation? Il est également primordial de bien comprendre ce terme avant de pouvoir réaliser toute l'importance que revêt l'inspiration. Et le dictionnaire va à nouveau nous aider à trouver cette définition. Révélation veut dire découvrir, se manifester, faire connaître ce qui est inconnu. Une chose qui ne peut être vue, qui n'est pas manifesté, ou qui est inconnu lui-même, n'est pas conséquent, pas révélé. Si cette image nous voyons ici, exprime quelque chose, c'est bien cela, un objet qui est toujours caché. Quand une révélation sera faite, l'objet pourra être vu. Quand ce qui est dissimulé est enlevé, il y a révélation. L'objet qui était jusqu'à présent inconnu est maintenant découvert, manifesté. Une révélation vient d'être faite. La révélation en matière spirituelle, c'est l'action de Dieu faisant connaître aux hommes les vérités que notre raison ne pourrait découvrir. Il existe nombre de choses que l'humanité n'est pas à même de pouvoir connaître, telles que comment le monde est venu à exister, tel qu'il est aujourd'hui, l'origine de l'homme, le besoin d'un sauveur, l'au-delà et tant d'autres choses. Dans son livre, il a fait une révélation sur ces choses, ainsi que sur d'autres d'ailleurs. Par conséquent, la révélation est la manière que Dieu a employée pour faire connaître à l'homme les choses qu'il n'aurait jamais pu connaître autrement. Ou Dieu faisant connaître l'inconnu à l'homme. Pensons aux nombreuses choses qui seraient toujours inconnues si la Bible n'avait pas été donnée à l'homme. Tout cela compose ce qui était inconnu et que Dieu a fait connaître au monde. Et maintenant que nous savons ce que les termes inspiration et révélation signifient, jetons un second coup d'œil sur l'énoncé inspiration plus révélation égale la Bible. Cette affirmation nous dit que deux choses ajoutées l'une à l'autre en valent une autre. L'inspiration ajoutée à la révélation dans la Bible, ceci est une équation parfaite. Si quelque chose devait être retranché d'un côté, il faudrait nécessairement le retrancher de l'autre également. Si l'inspiration était enlevée, ce qui était dicté à gauche ne vaudrait plus du tout ce qui est à droite, c'est-à-dire la Bible. En considérant cela de cette manière, nous voyons mieux le rôle important que joue l'inspiration. L'inspiration, moins la révélation, n'égale que quelque chose qui a été produit par l'homme. Si Dieu avait révélé à ses auteurs les vérités contenues dans la Bible et leur avait ensuite laissé la liberté de les exprimer à leur propre manière, le résultat en serait tout différent. Il est réjouissant de savoir que non seulement Dieu a fait une révélation, mais qu'en plus, il l'a sauvegardée par le moyen de l'inspiration. Et c'est ainsi que nous est parvenue la Bible. La Bible, le livre des livres, doit être inspiré. Si la Bible n'est pas le livre que Dieu a inspiré verbalement, mais est seulement une production humaine, alors notre foi est vaine. Tout ce en quoi nous croyons est parfaitement inutile si la fondation de notre foi, qui est la Bible, s'écroule. En quoi croyons-nous? Oh, il faudrait des jours, ou même peut-être des mois, pour exprimer notre croyance, parce que nous croyons fermement en chaque histoire, chaque phrase et même en chaque mot de la Bible. Voyons une courte rétrospective de quelques-unes de ces choses. Nous croyons au récit de la Genèse sur la création et le début de l'existence de l'homme, car aucun autre conte rendu n'est plus logique. Du jardin appelé Éden, avec son paradis de bénédiction, fait battre les cœurs des jeunes aussi bien que des moins jeunes. Nous croyons à l'histoire de Caïn et d'Abel, dont l'un offrit un sacrifice conforme à la volonté de Dieu. Caïn, jaloux, furieux de ce que l'Éternel avait agréé, l'offrande de son frère le tua. De nos jours, nos esprits sont plus remplis de Dieu. Quand nous nous souvenons du temps où sa colère s'étendit sur un monde dépravé, l'histoire de la destruction des méchants et du salut des huit âmes justes de Noé et de sa famille nous rappelle la bonne volonté, la miséricorde et la puissance de Dieu qui veut même de nos jours que l'homme soit sauvé. La foi inébranlable d'Abraham dans son Créateur, qui alla même jusqu'à accepter de sacrifier son Fils sur l'ordre de Dieu, est un exemple qui a montré depuis de nombreux siècles la foi que tout homme devrait avoir en son Dieu. L'histoire de Jacob, le père des 12 tribus d'Israël, qui trompa son père aveugle en se couvrant les mains et le cou de peau de chevaux afin de se faire passer pour son frère Ésaü et de recevoir ainsi la maîtrise sur la maison de son père, a été lu et relu par des millions d'êtres humains qui s'en sont souvenus. Jacob, s'étant enfui par crainte de la colère de son frère, eut un songe alors qu'il dormait. Il vit une échelle dont le sommet touchait le ciel et sur laquelle des anges de Dieu montaient et descendaient. Cette histoire a intéressé les enfants ainsi que leurs parents. Nous sommes tristes quand nous nous souvenons de l'histoire de Joseph qui fut vendu par ses méchants frères et heureux à la fois de voir qu'il est devenu un personnage puissant en Égypte grâce à la protection de Dieu. L'histoire de Moïse, qui fut mis dans un panier et laissé sur le Nil, est acceptée par tous ceux qui sont persuadés que la Bible est vraie. Nous croyons tous les récits faits au sujet de ce grand homme de Dieu qui devint le chef de la nation élue d'Israël. L'histoire de la traversée miraculeuse de la mer Rouge par tout le peuple d'Israël est le récit d'un grand prodige. Nous croyons en cela, car la Bible est vraie. Le livre des Juges, au chapitre 16, et au verset 3, nous dit que Samson saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux les arracha avec la barre les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Édom. Cela nous donne une preuve de ce que Dieu peut accomplir par le canal d'un homme. David n'était qu'un tout jeune homme, mais cependant, il est arrivé à tuer Goliath dans un combat singulier. Des milliers d'êtres humains ont eux aussi été menés vers ce qui semblait être impossible après avoir lu les Écritures. Un sauveur est né, et avec lui l'espoir est entré dans le monde. Nous croyons de tout notre cœur à l'histoire de sa naissance et de sa vie que nous raconte la Bible, et dans le moindre de ses détails. Le Fils de Dieu a été crucifié sur le bois. Non seulement nous croyons à cela, mais de plus, nous comprenons la raison pour laquelle il fallait que ce soit fait. Les anges avaient dit, il n'est point ici. Il est ressuscité. C'était une bonne nouvelle pour celle qui allait avoir le sépulcre il y a bien longtemps. Et cela même aujourd'hui nous réjouit et nous remplit d'espoir. En quoi nous croyons en tout cela? Et en bien plus encore, nous croyons que seule la Bible peut diriger nos vies spirituelles à l'exclusion de tout credo, manuel de discipline, règles de foi et autres catéchismes. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, révélée aux hommes, inspirée par lui. Nous en voulons être conduits par sa seule lumière, et nous voulons bien de vous laisser vous aussi conduire par elle. Comme vous en êtes aperçu, la première leçon de cette série ne traite pas des preuves d'inspiration. Nous avons simplement vu comment l'inspiration nous concerne. Et durant les trois leçons suivantes, nous verrons de nombreuses preuves qui démontreront notre foi que la Bible est bien inspirée de Dieu. En guise de conclusion, pour l'étude d'aujourd'hui, lisons ensemble le 35e verset de Matthieu, Matthieu 24, où Dieu nous dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Comme vous en êtes aperçu, nous avons un grand respect pour la parole de Dieu. Et nous conformons nos vies spirituelles à ce qu'elle dit. Nous vous invitons à l'étudier avec nous et à épouser une merveilleuse nourriture pour votre âme. La prochaine leçon sera intitulée « Les preuves internes de l'inspiration ».